Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître aux Hébreux, l'épître aux Hébreux au chapitre 3. Hébreux, chapitre 3. On s'accorde à dire que l'épître aux Hébreux présente ou révèle vraiment la supériorité de Jésus-Christ, sa supériorité sur les anges. Sa supériorité sur Moïse, sur Josué, la supériorité du repos, on a chanté tout à l'heure quel repos céleste, hein? La supériorité du repos que Jésus offre, la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ. Il est le meilleur, souvent on trouve ça dans l'épître aux Hébreux, le meilleur sacrifice, le meilleur sacrificateur, plus excellent, une alliance, il est le garant d'une alliance encore plus excellente. Et tout est fait pour montrer que Jésus est celui qui est supérieur à toute chose, et c'est à lui qu'on doit être et à lui que l'on doit s'attacher. Et le but de l'Épître aux Hébreux, c'est d'encourager à la persévérance des chrétiens qui sont issus du judaïsme et qui sont, peut-être à cause de difficultés, tentés de revenir en arrière, au rite du judaïsme. Et donc, sans doute peut-être pour être accepté, on ne sait pas, mais en tout cas, probablement à cause des souffrances, et donc ils sont tentés par cela. Et l'auteur les encourage à ne pas abandonner la confiance qu'ils ont mise en Jésus, parce que Jésus, c'est le meilleur. On ne peut pas avoir meilleur que Jésus-Christ. Et on voit donc que les exhortations à persévérer sont vraiment fondées ici, puisque c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait, sont fondées sur la compréhension que l'on doit avoir de Jésus et aussi sur la compréhension de son sacrifice. Il explique pourquoi le sacrifice de Jésus est supérieur, pourquoi Jésus est supérieur aux anges, à Moïse, à Josué, pourquoi son alliance est au-dessus. Et donc il montre que pour encourager, il faut mettre en avant qui est Jésus réellement et aider à comprendre la nature de son sacrifice. Et donc, il y a donc, quand vous lisez cette épître, il y a un sentiment souvent d'urgence qui se dégage à cause des nombreux avertissements. Je vous avais dit qu'il y avait 5 grands avertissements dans cette épître. Et il y a 15 jours, nous avons vu au chapitre 2, un avertissement qui était un avertissement contre la négligence du salut. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et au chapitre 3, il y a un autre avertissement. C'est l'avertissement contre le développement d'un cœur incrédule qui peut conduire à la perdition. Et donc nous allons lire tout de suite le chapitre 3 en entier, mais les versets qui vont nous intéresser sont les versets 12, 13 et 14. Nous allons lire donc Hébreux chapitre 3, verset 1 au verset 19. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1, nous lisons: « C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. » Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation, dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Ceux qui furent en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voilà jusqu'ici la parole de Dieu. Vous sentez, j'espère, le poids de ce que le Saint-Esprit dit ici. On sent que c'est lourd, on sent qu'il y a un danger et on sent qu'il y a une urgence. J'espère qu'on sent cela vraiment. Et le titre du message ce matin, c'est « Prendre garde à l'endurcissement du cœur ». Prendre garde à l'endurcissement du cœur. Le texte s'adresse à un public qui est familiarisé avec la parole de Dieu. Il ne s'adresse pas à des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile, s'adresse à des gens qui ont un passé dans le judaïsme, qui se sont tournés vers Dieu. Et il dit ici, verset 12, « Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Il s'adresse à un public comme le nôtre qui pourrait dire « Ah, mais j'ai déjà entendu cela. » Je connais ces choses, je les ai déjà lues. Et à ce public-là, mais à tous ceux qui ne sont pas de ce public-là aussi, notre texte adresse ce matin un avertissement que nous devons absolument prendre au sérieux. Les avertissements de l'Écriture doivent toujours être pris au sérieux. Et la menace que présente l'Écriture, c'est jamais la menace d'être malade. C'est jamais celle, de ne pas avoir une belle maison, j'en sais rien, un bon travail. C'est parce que c'est toujours la menace de s'éloigner de Dieu et d'être perdu. Et ce texte dit exactement la même chose. Il dit « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais » au point de se détourner du Dieu vivant. Et le sens, c'est au point d'apostasier, hein? C'est-à-dire on se détourne de la foi. Alors, on va essayer de comprendre cela. Première chose que je voudrais développer ce matin, c'est que le cœur incrédule, et endurci, on pourrait dire, est de tout temps une menace. Hein? Le cœur incrédule est de tout temps une menace. Le verset 12 établit vraiment une sérieuse mise en garde qui s'adresse aux frères ou à ceux qui professent être des chrétiens. Et ce contre quoi il met en garde, c'est le développement d'un cœur mauvais et incrédule. D'autres textes disent d'un cœur mauvais d'incrédulité, d'un mauvais cœur d'incrédulité. Et quelqu'un a dit ceci, a dit que le cœur de tout problème que l'on peut avoir dans la vie chrétienne, le cœur de tout problème C'est le problème du cœur. Le cœur, ce qu'il y a au cœur de tous les problèmes que nous pouvons avoir, c'est le problème de notre propre cœur. Et l'auteur ici, il ne veut pas que les chrétiens soient aveuglés ou inconscients du danger qu'ils courent. Il ne veut pas que ceux qui professent être chrétiens soient inconscients du danger qu'ils courent. Il ne veut pas qu'ils s'habillent d'une fausse sécurité. Il ne veut pas qu'ils soient maintenus dans leur pensée qu'il n'y a aucun risque. Il veut que dans leur pensée subsiste qu'il y a toujours un risque de développer un cœur incrédule et mauvais au point de se détourner de Dieu si on ne prend pas garde à ce que l'Écriture dit ici. Et pour le faire, il va donner un exemple. Il donne d'abord un exemple qu'il tire de l'histoire du peuple d'Israël. Il va citer le psaume 95, des versets 7 jusqu'au verset 11 que nous avons lu. C'est une citation du psaume 95 qui se réfère à une histoire du peuple d'Israël, probablement l'histoire de Kadesh Barnéa, où, vous savez, le peuple était juste au seuil d'entrer dans le pays de Canaan, et puis il n'a pas obéi à Dieu. Il a refusé de prendre possession du pays. Et donc, avant de rentrer dans l'avertissement proprement dit, l'auteur fait appel au psaume 95. Nous avons lu, on va pas lire le psaume 95, mais c'est ce que nous avons lu au verset 7 à 11, eh bien, cela. C'est un résumé de ce qui s'est passé et aussi de l'attitude de Dieu à l'égard de ce qui s'est passé. C'est ce qu'il veut souligner ici. Et il fait retentir le sérieux de l'urgence qu'il y a en disant à chaque fois, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la petite section que nous avons lue, et si on avait lu le début du chapitre 4, nous aurions vu que l'auteur parle au moins 4 fois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, exhortez-vous aujourd'hui. Et encore au chapitre 4, verset 7, il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Et donc cela donne vraiment le ton de cette lettre, de ce passage qui résonne, qui doit résonner dans le cœur de ceux qui l'entendent ici. Et le sérieux, le problème qu'avait ce peuple d'Israël, eh bien, il l'explique clairement que c'était le développement d'un cœur incrédule, un cœur qui s'est endurci, au verset 8, on le voit, hein, ici, n'endurcissez pas vos cœurs, il dit comme lors de la rébellion. Donc c'est exactement ce qui leur est arrivé, ils ont eu un cœur qui s'est endurci. Et le cœur, verset 10, dit c'est le cœur qui s'est égaré. Dieu dit, c'est le Saint-Esprit qui parle hein, dans ce passage. Il dit, le Saint-Esprit dit qu'ils ont eu le cœur endurci, qu'ils se sont égarés au verset 10. Et donc le cœur endurci les a poussés à faire quoi? Les a poussés à désirer retourner en Égypte. Ils ont dit, non, on ne veut pas aller dans ce pays. Où coule le lait, le miel, on va être dévoré par les géants. Alors que Dieu dit, allez-y, je vous donne possession du pays. Ils ont refusé d'écouter Dieu et ils ont désiré retourner en arrière. C'est exactement la situation des lecteurs de l'Épître aux Hébreux, des destinataires. Ils sont tentés de revenir en arrière. Et l'auteur dit, souvenez-vous de l'histoire du peuple d'Israël qui a désiré revenir en arrière. Et donc ce psaume 95 qu'il cite résume l'attitude du peuple et la réponse de Dieu à cette attitude. Et la réponse, le verdict de Dieu est sans appel. Il dit au verset 11, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Et il n'est pas revenu sur cette décision. Et la citation du psaume 95 est pour faire sentir et faire prendre conscience de cela. Et au verset 16 jusqu'au verset 19, il y a une série de questions que l'auteur pose ici. On appelle ça des questions rhétoriques. Mais pour amener à réfléchir sur une chose bien précise, regardez, il dit ici, qui furent ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon ceux qui était sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu s'est-il irrité, sinon ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon ceux qui ont désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. À qui est-ce que c'est arrivé, dit-il? Eh bien, il dit, aux mêmes qui sont sortis d'Égypte sous la puissance, le bras étendu de Dieu, sous la conduite de Moïse. Tout cela, toute cette génération, les mêmes, ils ont tous, sauf Josué et Caleb, ils ont tous péri dans le désert. Ils ont vécu l'expérience de la délivrance, mais ils ne sont pas rentrés dans le pays de Canaan. La délivrance de l'esclavage de l'Égypte, mais ils ne sont pas rentrés dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Et ce que l'auteur est en train de dire ici à ces Hébreux qui sont tentés de revenir en arrière, il dit attention, attention, il ne faut pas se leurrer. Il ne suffit pas de vivre un petit bout d'expérience pour croire que tout est bon et qu'on peut faire ce que l'on veut. Il dit, il faut, la promesse, c'est la terre promise ici. Il dit, eux, ils ne sont pas rentrés là-bas parce qu'ils ont développé un cœur incrédule au point où ils se sont détournés de Dieu, ils sont tombés sous le verdict de Dieu. Et cela peut arriver, vous arrivez, leur dit-il. Cela peut arriver. Et donc, l'avertissement sonne, résonne pour eux parce qu'ils connaissent bien cette histoire. Et ce que l'auteur veut souligner aussi, c'est que le danger d'incrédulité, de cœur endurci, est toujours actuel ici. C'est toujours actuel ici. Il met en évidence pour eux le risque en ayant cette tentation de revenir en arrière, de développer un cœur qui se détourne de Jésus-Christ. Et peut-être que certains étaient déjà en train de le faire et de s'endurcir. Et il montre ici avec ce rappel que la persévérance dans la confiance en Jésus est d'une grande importance dans l'assurance du salut. C'est ça qu'il montre ici. Il dit, regardez au verset 6 du passage chapitre 3, deuxième partie, il dit, au verset 6, il dit, « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, dit-il, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Au verset 14, il dit, « Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Il est en train de dire, attention, il ne suffit pas de commencer. Il ne suffit pas de commencer. Il ne faut pas vous leurrer parce que vous avez commencé, parce que vous assistez à une assemblée, que parce que vous êtes là, tout est bon. Il dit non, 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 non. Vous devez veiller à votre propre cœur et à l'attachement que vous avez à Jésus-Christ. Et ce qui est un danger pour eux, pour ces lecteurs-là, l'est aussi pour nous aujourd'hui. Le risque de développer un cœur méchant et incrédule concerne aussi les chrétiens ou ceux qui professent être chrétiens. Ça les concerne aussi. Il est possible de se laisser prendre, comme quelqu'un disait, dans une certaine dynamique de l'éloignement du Dieu vivant. Alors, pour bien comprendre cela, on va regarder en quoi consiste cette dynamique de l'éloignement. Versets 12 et 13 nous le montrent. Il y a plusieurs choses qui sont dites ici. Il est dit, prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, il y a le cœur mauvais, incrédule, le cœur qui se détourne du Dieu vivant. Et puis au verset 13, il dit, « Mais exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Il y a l'endurcissement et la séduction du péché. Alors je vais commencer avec la séduction du péché, ou l'illusion, on pourrait dire, du péché. La séduction, c'est la ruse, c'est la tromperie. C'est le fait d'utiliser un artifice, ici. Et le péché, nous dit la Bible, est quelque chose qui séduit, en ce sens qu'il n'apparaît pas toujours, mais pratiquement jamais, sous sa véritable identité. Il se déguise, ici, hein. Et quand la Bible dit que Ève fut séduite par le diable, elle ne dit pas que Ève connaissait la parole de Dieu, elle savait que c'était vrai, et puis il y avait la parole du serpent, et elle savait que c'était faux, et qu'elle a quand même choisi la parole du serpent. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que Ève a été séduite. Ça veut dire que les choses ont été d'une manière telle qu'elle a cru que ce que le diable a dit, c'est la vérité. C'est ça être séduit, hein. Quand on dit que quelqu'un, il m'a séduit, hein. Parfois il y a des gens, ils rencontrent quelqu'un et puis ils se laissent embobiner et puis après ils disent oui, il m'a donné tellement de belles paroles, ça m'a séduit, hein. Mais ça veut dire que j'ai cru à cela. Et c'est tout l'art de la séduction du péché, c'est de faire croire que c'est vrai. Hein? La Bible dit que le diable, c'est le père du mensonge. Il manipule le mensonge. Donc le péché est séduisant dans le sens qu'il est attirant et qu'il se présente, il présente pour vrai. Mais qu'est-ce qu'il présente pour vrai? Il présente pour vrai que c'est mieux la richesse, ou c'est mieux ceci ou cela, ou c'est mieux cette personne que Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le meilleur. Il y a mieux. Hein. Et quelqu'un disait ça souvent. Il dit souvent, on rencontre des gens à qui on parle de l'évangile. Ils disent, moi, je ne veux pas venir à l'évangile parce que, bon, oui, ça semble vrai, mais j'ai envie de vivre ma vie. Je suis encore jeune. J'ai encore plein de choses à découvrir et je veux vivre ma vie. Et quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vivre sa vie comme ça est bien plus intéressant, contient bien plus de promesses que de suivre Jésus-Christ. Et la personne qui dit cela, elle croit cela. On ne choisit pas ce qui est, qu'on sait vraiment être mal, et qui va nous faire du tort par plaisir. Je crois personne ne fait ça. On choisit le mal parce qu'on pense que le mal est bien. Et ici, l'auteur, je sais pas qui, dit que il y a un risque de se laisser séduire par le péché, ici. Matthieu 13, 22 dit, celui qui a reçu la semence dans les épines, celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole. C'est-à-dire, quelque part, il y a quelque chose qui est plus important, qui est présenté de manière séductive comme plus important que la parole de Dieu. La séduction du péché. Et nous pouvons tous être séduits par le péché. Si Ève a été séduite, nous pouvons être séduits. Même l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7 que le commandement, je crois qu'il dit ça comme ça, hein, qui conduit à la vie, c'est trouver conduire à la mort. Tu vois, il dit que le péché a pris la loi et l'a séduit avec. S'il peut être séduit, nous pouvons être séduits. Nous pouvons être séduits. Et c'est pour cela qu'il faut être sur ses gardes. La séduction persuade, convainc que ici, c'est meilleur que Jésus-Christ. Que le retour en arrière, c'est meilleur que Jésus-Christ. Que le retour en Égypte, c'est meilleur que Canaan. C'est ainsi qu'agit la séduction du péché. Et cela conduit, cette séduction, quand elle envahit le cœur, quand nous croyons que c'est vrai, eh bien, la Bible dit que le cœur s'endurcit petit à petit. Et c'est un processus qui est progressif. Le cœur n'est pas dur dès le début. Il s'endurcit. Il se laisse séduire et au fur et à mesure, il s'endurcit. Et l'endurcissement concerne ceux qui connaissent ici la parole de Dieu. Ce n'est pas des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Il parle de l'endurcissement de ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent la loi de Dieu, qui ont entendu des tonnes de fois l'évangile. Il dit que s'ils ne prennent pas garde, il y a un risque que le cœur s'endurcisse, parce que le cœur va s'accoutumer à entendre des choses qui ne sont pas la vérité, ou il va s'accoutumer à rejeter tout simplement la vérité qu'il entend ici. Et donc il n'est pas question ici de personnes qui ne vont pas à l'église, qui n'ouvrent jamais leur Bible, qui passent leur temps à couder au bar. Il s'agit de personnes qui sont familières avec les Écritures, qui connaissent les écrits, qui connaissent la loi. Et l'accoutumance au péché, ici, consiste à ne pas se soumettre simplement à la parole de Dieu, à l'évangile. Et c'est cela qui conduit à l'endurcissement. C'est comme l'accoutumance que l'on a avec la pratique d'un instrument, peut-être la guitare, par exemple, pour ceux qui jouent de la guitare, hein. Au début, quand vous commencez à jouer, vos doigts, le bout des doigts là, c'est tout mou. Hein. Vous jouez 10 minutes et vous avez mal aux doigts. C'est pas... Mais quand vous jouez, vous persévérez, vous jouez. Vous avez sur le bord là, ça développe une peau épaisse. Hein. Ça devient dur. Et après, vous pouvez jouer sans que ça vous fasse mal. Et c'est pareil avec l'endurcissement du cœur. Au début, ça fait mal quand on ment, parce qu'on sait que c'est pas bien. On sait que c'est contre la volonté de Dieu. Mais après, si on ne revient pas de la repentance et que l'on continue, eh bien, on développe une espèce d'insensibilité. Et le cœur devient dur, au point que les autres vérités de la parole, quand elles sont enfreintes, ne nous font plus mal, parce que le cœur s'est habitué à enfreindre la loi de Dieu. À dire, oui, je connais ça, mais ce n'est pas un manque de connaissance, hein, l'endurcissement. C'est un manque de soumission à ce que l'on sait être vrai. Et c'est ça qui développe petit à petit un endurcissement du cœur. On est séduit par autre chose, etc. Et quelqu'un soulignait cela de manière très, très, très nette, très claire, hein. Il dit que ce n'est pas en fait la connaissance ou les choses que l'on a entendues qui sont le problème. Hein. C'est vraiment le fait de ne pas se soumettre à ce que l'on a entendu qui crée cet endurcissement du cœur. On n'est pas contre les choses. On croit que c'est vrai. On vient au culte. On vient en réunion. On ouvre la Bible. On chante. On prie. On récite des choses le dimanche, mais dans la semaine, la vie n'est pas conforme à tout ce qu'on a exprimé. Et il dit, le cœur s'endurcit comme ça. Le cœur s'endurcit parce qu'on ne met pas en pratique ce que l'on professe avec la bouche. Et l'auteur dit, attention, il y a danger. Attention, il y a danger. Le cœur devient dur à la pénétration de la parole de Dieu parce qu'il ne s'est pas soumis à cette même parole. C'est terrible, hein, ça. C'est-à-dire, quand on ne se soumet pas à la parole de Dieu, on n'obéit pas, eh bien le cœur devient dur à cette même parole de Dieu. Après, ça ne nous fait plus rien. On l'entend et ça ne nous fait plus rien. Il n'y a plus de tendresse du cœur. Et puis, autre chose que l'auteur souligne, donc ici, la séduction du péché, l'endurcissement du cœur. Il parle aussi du mauvais cœur incrédule qui se détourne de Dieu. C'est quoi l'incrédulité? Eh bien, d'après le texte, c'est le refus, on l'a dit, hein, c'est le refus vraiment d'obéir à la parole de Dieu. C'est le refus d'obéir à la parole de Dieu. Et je cite un auteur qui dit « L'incrédulité, c'est le refus d'obéir à la vérité dont je suis intellectuellement convaincu. » C'est terrible ça. C'est-à-dire qu'on peut développer une adhésion, un assentiment intellectuel à une vérité sans pour cela soumettre notre cœur à cette vérité. Je sais que c'est vrai. Je crois que c'est vrai, mais je refuse de me soumettre à cette vérité-là. C'est tragique, n'est-ce pas? Et on entend des gens qui nous disent ça. Oui, je sais que c'est la parole de Dieu. Mais, dans la tête, on sait. Et la foi véritable, ce n'est pas qu'un assentiment dans la tête. C'est vraiment le fait d'embrasser Christ, Jésus-Christ, dans une relation qui fait que l'on se soumet à sa parole. Parce qu'il dit, celui qui m'aime, il fait quoi? Il garde mes commandements. Donc c'est un amour pour Christ et pour ses commandements qui font que j'obéis à ses commandements et que je les mets en pratique. Et il y a beaucoup de gens qui sont intellectuellement convaincus des vérités de l'Évangile, qui croient que c'est vrai, qui adhèrent intellectuellement, mais qui ne conforment pas leur vie à la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Hébreux, la citation qu'il donne, il dit « Ils virent mes œuvres hein, ». Vous voyez, au verset 9 du chapitre 3, il dit « Ils virent mes œuvres, mais ils ne connaissent pas mes voies ». On peut voir les œuvres de Dieu sans connaître les voies de Dieu. On peut voir ce qu'il fait, expérimenter ce qu'il fait, être avec le peuple que Dieu a béni, que Dieu a fait sortir, mais sans pour autant connaître intimement la voix de Dieu. On peut avoir fréquenté beaucoup les lieux de culte, entendre des messages dès sa jeunesse, et en même temps ne pas connaître la voix de Dieu. Ça veut dire voir ses œuvres sans connaître sa voix. Et quelqu'un disait, Judas, il a entendu tous les sermons de Jésus. Mais il ne connaissait pas la voix du Seigneur. Et l'apôtre dit ici que le risque, c'est de se détourner, de quitter, d'abandonner, de déserter. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est des choses qui doivent nous faire trembler, ça. Il dit, l'Esprit dit qu'il y en a qui vont se détacher pour se tourner vers des doctrines de démons. Et Paul, dans son enseignement dans 1 Timothée, dit ceci, il dit à Timothée, viens au plus tôt près de moi, car Démas, qui était un compagnon de l'apôtre Paul, vous pouvez trouver ça dans Colossiens, c'était son compagnon, il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Il était avec Paul. Ils ont fondé des églises, il a voyagé, ils ont encouragé des gens. Et Paul dit à Timothée, je suis tout seul, viens parce que Démas m'a abandonné. Et il est parti parce que l'amour du monde l'a emporté. L'amour du siècle présent l'a emporté. C'est terrible. Et vous connaissez certainement des situations comme celle-là. Vous avez peut-être déjà vu des personnes qui ont passé du temps et puis finalement se détournent. Le but de l'auteur est de montrer ici que l'incrédulité est un péché qui conduit à la destruction. Nous avons tendance à considérer souvent l'incrédulité comme quelque chose de léger, sans réelle importance. Oui, c'est bon, oui, bah, hein. C'est-à-dire même à la pratiquer comme quelque chose qui n'est pas important. Je sais, Dieu dit ça, mais bon, oui. Nul n'est parfait, hein? Nul n'est parfait. Mais Dieu veut que l'on prenne cette chose au sérieux. Dieu veut que l'on prenne cette chose au sérieux. Ne pas obéir à sa voix, on le voit ici, suscite l'irritation de Dieu et sa colère. Suscite son irritation et sa colère. Et Hébreux 3:10 dit que la réaction de Dieu, on l'a vu, hein, c'est de l'irritation. Au verset 11, il dit « Je jurai dans ma colère ». Qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Et il ne revient pas sur sa décision. Et donc l'auteur montre que c'est une chose grave d'entendre les paroles de Dieu et de rester indifférent. Et ça nous concerne tous ici ce matin. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous entendons, de ce que nous lisons de la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous nous attachons de plus en plus à Jésus-Christ? Ou est-ce que nous nous contentons d'être là, juste d'être là, d'accomplir notre formalité dominicale? C'est ça que le texte nous invite à nous poser comme question ce matin. Sommes-nous attachés au Seigneur dans une réelle affection pour Christ et dans une réelle soumission à sa parole? Ou sommes-nous simplement des auditeurs du dimanche? Et donc, je dis que l'incrédulité est une menace de tous les temps. Deuxième vérité que je voudrais souligner avec ce passage, c'est que le salut véritable se manifeste par la persévérance. Le salut véritable se manifeste par la persévérance. Et le verset 14 dit ceci, il dit « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » La foi véritable, c'est être attaché à Christ. Ça n'est pas le fait d'accomplir des rites, le fait d'être là, le fait d'entendre. Il faut toutes ces choses, c'est important parfois. Mais la foi véritable consiste à être participant de la nature de Christ. Et on avait appris dans les vérités fondamentales que le Saint-Esprit nous est donné. Pourquoi? On le voit dans Galates, il nous est donné ici pour, et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, que le Saint-Esprit nous est donné pour nous rendre par une vraie foi participants de Christ et de tous ses bienfaits. Et être au Seigneur, c'est être participant de la nature de Christ, être attaché à Jésus-Christ. Mais l'auteur ajoute ici, pourvu que, quoi? Que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il dit que le salut véritable se manifeste pas simplement par un commencement, mais par une persévérance. Et c'est ça que le texte met en évidence avec la citation du psaume 95. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça vient juste après le verset 6 qui dit que nous sommes ici de sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'espérance. Et au verset 14, nous le lisons, il dit que nous sommes participants de la nature de Christ, pourvu que nous persévérions jusqu'à la fin. Il ne dit pas que la persévérance provoque l'attachement à Christ. Mais il dit, mais l'attachement à Christ se manifeste par une persévérance. Bien sûr, le chrétien peut avoir des hauts et des bas. Mais la parole affirme avec force que la persévérance est la marque de la vraie foi. Parole de vie dit, nous travaillons maintenant avec Christ, mais à une condition, il dit, nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avions quand nous sommes devenus croyants. Et l'apôtre Paul disait aux Philippiens, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Dieu commence, Dieu continue et Dieu amène à perfection. Et donc retenir jusqu'à la fin, c'est la réalité de la foi. Et cette vérité est étayée dans l'Écriture. Je vais juste citer un passage où l'apôtre Jean dit ceci, en 1 Jean 2, verset 19, il parle de personnes qui ont assisté, qui étaient là, qui ont peut-être chanté le dimanche matin, qui ont distribué des traités dans la rue, pour amener ça à notre époque, hein, qui ont témoigné sur les sites, qui ont fait plein de choses, probablement. Il dit, ils sont sortis, 1 Jean 2, 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il parle de personnes qui étaient là et qui sont partis, qui ont abandonné. Il dit, oui, ils sont sortis d'ici, mais ils n'étaient pas d'ici. Vous comprenez là, il dit, il n'y avait pas d'attachement à Christ. D'ailleurs, leur départ prouve qu'il n'y avait pas d'attachement. Et il ajoute ceci, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Il dit ici que s'ils étaient réellement des nôtres, ils ne seraient pas partis. Mais s'ils sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et nous devons la prendre telle qu'elle le dit. Il dit que la foi réelle se manifeste par une persévérance réelle. Qui peut, on n'est pas parfait, on peut avoir des hauts, des moments de faiblesse, de coups, etc. Mais il dit qu'il y a une marche de progrès en progrès et une persévérance. Parce que c'est Dieu qui la donne. Et le véritable croyant trouve de l'assurance dans la marche de foi continuelle. Ça ne veut pas dire que tous les jours, il est... Non, il y a des moments de haut, comme je l'ai dit, des moments de bas. Mais quand cette relation avec Dieu vient à manquer, il n'est pas bien. Si on est bien lorsque, voilà, on ne lit plus la Bible, on ne vient plus à l'église, etc., on se trouve bien, il faut se poser des questions. Il faut se poser de sérieuses questions. Quand le véritable croyant à des moments de creux, de baisse, il ne se trouve pas bien, il demande la prière, il recherche, il va se repentir et il revient au Seigneur. Combien de temps ça prend, je ne sais pas. Dieu sait. Mais quand Dieu touche, il touche. Et la vie, elle est la persévérance, c'est ce qui donne, c'est ce que l'auteur dit ici. Hein. Il dit attention, hein, retourner en arrière, c'est grave. Hein. N'oubliez pas que l'attachement à Christ, ça se produit par la persévérance, pourvu que vous continuez ici. C'est là qu'elle est, quelle assurance. Pas dans l'autre sens. Pas dans l'autre sens. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et puis, troisièmement, je terminerai avec cela. Il dit aussi que l'interaction régulière et édifiante entre chrétiens est le remède efficace contre le cœur incrédule. Je le redis ainsi, l'interaction régulière et édifiante entre chrétiens est le remède efficace contre le cœur incrédule. Regardez le verset 13. Il dit, exhortez-vous, il dit, prenez garde, verset 12, que quelqu'un de vous n'ait un cœur endurci et mauvais au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous, ça c'est le remède, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. On aurait pu penser que pour lutter contre un cœur incrédule, bon, il faille se retirer quelque part, lire la parole, se mettre dans, je sais pas moi, dans s'écarter des autres, parce que souvent c'est les autres le problème, on le sait bien. Hein. Et puis, non, mais qu'est-ce que l'auteur dit ici? Il dit, pour lutter contre l'incrédulité, il faut interagir entre vous, chrétiens. Intéressant ça. Il faut vous exhorter les uns les autres, chaque jour, quotidiennement, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus dire aujourd'hui, c'est-à-dire après la mort. Mais tant qu'on peut dire aujourd'hui, il dit, voilà ce que le chrétien doit faire. Il a une mission que Dieu donne pour prévenir le cœur incrédule, pour prévenir la séduction du péché, pour prévenir le cœur qui s'endurcit, pour prévenir le détournement de Dieu, du Dieu vivant. Ce que Dieu lui donne, c'est l'interaction les uns avec les autres. Interaction régulière et édifiante. Et on trouve ça ailleurs dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 10, je vous lis, hein, au chapitre 10, il est dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Exhorter, c'est être consolé, j'ai vu prier, supplier, invoquer, demander, adresser, inviter, apaiser, engager à parler avec bonté. C'est traduit, il y a encore bien d'autres choses, bien d'autres expressions par lesquelles c'est traduit dans la Bible. Mais exhortez-vous les uns les autres. Et donc exhorter, c'est pas juste parler pour rien dire, mais c'est vraiment chercher à ce que l'évangile s'applique dans la vie les uns des autres. C'est ce qui est exprimé ici par « veillons les uns sur les autres ».« Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres ». Hébreux 10, verset 24. Et par « veillons », ici, il y a l'idée d'un engagement de l'esprit de l'homme. Le même mot est utilisé En Luc 12, lorsque Jésus dit, considérez les corbeaux, considère le lys des champs. Tu dois analyser les choses, faire attention, etc. Et Jésus lui-même, le mot est utilisé à son propos, hein, à un moment quand des gens viennent voir Jésus pour lui demander s'il est normal de payer le tribut à César. Et la Bible dit Jésus apercevant, c'est le mot, leur ruse. C'est-à-dire, il discerne derrière ce qu'ils disent, quelle est la réalité de leur question. Donc il a percé quelque chose. Et veiller les uns sur les autres, c'est ça. C'est pas être curieux, mais c'est être suffisamment sensible pour percevoir, peut-être là qu'il y a un cœur qui a besoin d'être encouragé. Peut-être là, il y a une âme qui est fatiguée. Qu'est-ce que je peux faire pour l'encourager à ne pas revenir en arrière, à ne pas croire que les anciennes habitudes, au moins c'était bien à ce moment-là. Et puis depuis qu'il est chrétien, c'est la difficulté. Non, je dois l'encourager à dire, Jésus est toujours le meilleur. Tu peux pas revenir en arrière. Mais pour cela, il faut que je veille. Il faut que je veille sur lui. Suis-je le gardien de mon frère? Hébreux dit oui. Tu es le gardien de ton frère. Lorsque Caïn a tué Abel, Dieu lui a dit, où est ton frère? Et aujourd'hui encore, il nous pose cette question, où est ton frère? Tu es responsable de lui. Et si tu veux être préservé de la séduction du péché, de l'endurcissement du cœur, tu dois interagir avec tes frères et tes sœurs. Voilà quelle est notre mission. Si nous professons être chrétiens, encouragés à la fidélité, encouragés à croire à l'évangile, à appliquer l'évangile dans la vie, c'est le seul antidote contre le cœur mauvais que l'Écriture nous donne. Nos cœurs sont faciles à tromper, très faciles à tromper. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes, nous abuser nous-mêmes. Et nous avons besoin donc du regard bienveillant des autres sur nous. Et c'est le Saint-Esprit qui dit cela. Est-ce que nous allons oser dire le contraire? On se torture parfois l'esprit pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi. J'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire. Ben voilà. Dieu dit, exhortez-vous chaque jour, réciproquement, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Voilà une mission. Est-ce que nous l'accomplissons? Eh bien, ne cherchons pas plus loin. Demandons au Seigneur la grâce de mettre cela en œuvre dans notre vie. D'aider les croyants, de les exhorter, de prier pour un tel, mais de prier aussi avec un tel. L'apôtre Jacques dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera son âme de la mort. Je dis tout à l'heure, c'est pas de la mort physique qu'il parle ici, hein. C'est-à-dire que quand le croyant s'égare, Il y a un risque que ce soit pour la perdition, dit Jacques. Il dit alors, il faut le ramener, il faut courir et le ramener parce que si tu le ramènes, tu sauves son âme de la mort. Tu sauves son âme de la mort et tu couvres une multitude de péchés. Quand David est en pleine tempête, il est poursuivi par Saül. Il est roi déjà, mais il est vraiment dans la détresse. Et à un moment de sa vie, eh bien, la Bible dit que Jonathan, fils de Saül, vient le voir. 1 Samuel chapitre 23, verset 16. Il dit, ce fut alors que, c'est-à-dire alors que David était dans cette tourmente, poursuivi, il voit l'armée de Saül arriver. Et on peut dire qu'il sent l'odeur de la mort. Hein? Et un moment même, il dit, je finirai par périr entre les mains de Saül, tellement il était à bout. Et à ce moment-là, il dit, ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Il dit, voilà ce que fait un chrétien. Il fortifie la confiance des autres en Dieu. C'est la mission que Dieu nous donne quand nous sommes découragés les uns les autres. Le Seigneur Jésus lui-même, qu'a-t-il fait pour Simon? Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. C'est ça, exhorter mutuellement. Il le fait, Jésus le fait pour Simon. Nous devons le faire aussi, les uns pour les autres. Mais je termine en disant, pour qu'un tel ministère s'exerce, il faut des choses. Il faut des choses. Il faut d'abord faire tout ce qui est en son pouvoir pour partager la communion des frères, la communion des saints. Il n'y a pas d'interaction si on ne se rassemble pas. Donc, si on ne se rassemble pas volontairement, on désobéit à ce que Dieu dit. D'ailleurs, il y a un autre passage où il dit « n'abandonnons pas notre assemblée hein. ». Et si on désobéit à la parole de Dieu, c'est qu'on est sous le coup de la séduction du péché. Je pense, c'est mieux de rester chez moi aujourd'hui, même si la parole dit « rassemblez-vous ». Donc je suis sous le coup de la séduction du péché. Rester chez moi, c'est meilleur que Jésus-Christ et le rassemblement des chrétiens. Donc je suis sous le coup de la séduction du péché. Je suis en risque d'avoir un cœur endurci. Et finalement, en persistant dans cela, de me détourner du Dieu vivant. C'est comme cela qu'il faut comprendre notre texte. Donc, pour que cela, cette exhortation mutuelle se fasse, cette exhortation qui permet de prévenir le cœur endurci, il faut faire tout ce qui est en son pouvoir pour assister à toutes les rencontres qui me concernent. Rencontres de jeunes, de femmes, de groupes, etc. Et puis, il faut perdre l'habitude de ne pas se rassembler. Hébreux 10, 25 dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a des abeilles qui avaient cette habitude-là. Ils vont de temps en temps en réunion. Il faut perdre cette habitude, dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. Celle qui consiste à ne pas se rendre aux réunions, à trouver des excuses pour ne pas y aller. Et peut-être votre cœur s'est-il endurci déjà dans cela. Priez Dieu qu'il vous en délivre et mettez-vous en route dès mardi soir. Et puis, je voudrais dire aussi que il faut, pour pouvoir mettre en pratique cette exhortation, avoir accès les uns aux autres. On peut se réunir sans avoir accès les uns aux autres. Il faut avoir accès les uns aux autres. L'auteur dit, exhortez-vous chaque jour les uns les autres. C'est pas que le dimanche. Et c'est les uns les autres. C'est pas que les anciens vers les membres de l'église ou les membres de l'église vers les anciens, mais c'est les uns les autres et c'est chaque jour. Et maintenant, avec les moyens de communication que nous avons, c'est facile. C'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Si je veux obéir à cela, je dois accéder aux autres, mais je dois laisser aussi les autres accéder à moi. Je dois être accessible. Nous devons avoir accès, d'autant plus lorsqu'il y a des choses à régler, où le cœur risque de s'endurcir, où on peut être aveuglé par la séduction du péché. Matthieu 18, 15 dit, si ton frère a péché, il dit, va et reprends-le entre toi et lui seul. Je dois, ça veut dire que celui qui a péché doit donner accès à l'autre. Mais l'autre doit aussi aller. Ici. Il y a, et si on n'obéit pas à cela, et l'un et l'autre sont séduits par la séduction du péché et sont sur le chemin de l'endurcissement. Nous devons y aller. Et nous devons accueillir l'autre qui vient vers nous. Si je ne me mets pas dans cette disposition, je résiste à ce que la parole de Dieu dit. Et si je résiste, je suis séduit par le péché. Et mon cœur est en train de s'endurcir. Il y a danger. Il faut se donner accès et se parler les uns les autres dans la vérité. En Malachie, il est dit « Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent ». La particularité des croyants, c'est qu'ils se parlent dans la vérité. On ne peut pas ne pas parler à nos frères et sœurs, ne pas leur donner accès lorsqu'ils nous demandent, ou ne pas refuser simplement d'aller les voir, de les accueillir chez nous, d'exercer l'hospitalité envers eux. Éphésiens 14:15, je termine avec ce verset, dit « Enfin, afin que nous soyons plus des enfants flottant, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. » Voilà, le risque qu'on a, c'est qu'on est souvent emporté par la tromperie des hommes, par la ruse, séduction, dans les moyens de séduction. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons professer la vérité dans la charité. Et à cela, en cela, nous allons croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quand on se rencontre et qu'on professe les uns envers les autres la vérité, on parle, on éclaircit les choses, on parle selon la vérité, eh bien, il dit que l'on progresse. On progresse à tous égards en Christ qui est le chef. C'est pourquoi, dit-il au verset 25, « Renoncez au mensonge et que chacun parle à son prochain selon la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. » Vous voyez cela ici, hein? Exhorter mutuellement, donner accès, parler. On ne peut pas refuser de donner accès à nous, de se rassembler, de penser à l'autre, de prier pour lui, etc. D'aller le voir, même si on pense qu'il a quelque chose contre nous, mais de parler, de savoir qu'est-ce que c'est, d'éclaircir la situation. Tout cela, il dit, ça fait partie du ministère de chaque croyant, s'il veut ne pas être sous le coup de la séduction du péché qui emmène à l'endurcissement. Alors, quelle est l'exhortation principale pour nous aujourd'hui? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3, verset 7, Hébreux 3, verset 15, Hébreux 4, verset 7, il dit aussi la même chose. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et nous ne devons pas l'endurcir précisément à propos de ce que nous avons lu et entendu aujourd'hui. La voix de Dieu vous dit-elle de vous repentir et de croire en Jésus-Christ, de mettre votre confiance en lui pour votre salut? Si vous refusez de le faire, vous vous séduisez vous-même, vous endurcissez votre cœur et vous risquez de l'endurcir à jamais, au point que Dieu dise dans ma colère, je jurai, il n'entrera pas dans mon repos. Donc ne l'endurcissez pas. Mais aussi si vous êtes au Seigneur, si vous prétendez l'être, et que cette voix vous dit que vous manquez à votre devoir d'exhortation les uns des autres. Vous manquez au devoir que vous devez aux frères et sœurs parce que vous ne vous réunissez pas avec eux. Parce que vous ne prenez pas souci d'eux. Eh bien, Dieu nous demande de nous repentir. Et il faut reconnaître que nous le faisons. La parole n'est pas là pour nous perdre. Un avertissement, c'est toujours pour nous pousser à changer de direction. Donc repentons-nous et demandons à Dieu pardon. Et demandons-lui la grâce de mettre sa parole en pratique. Parce que nous l'aimons, parce que nous voulons le servir, parce que nous professons que Jésus est le meilleur. Et que ce qu'il me dit, c'est le meilleur. Qu'importe les sentiments que j'ai. Ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu dit. Et mes sentiments doivent être forgés sur ce qu'il dit. Mes attitudes doivent être conformes à ce qu'il dit. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Prenez garde qu'aucun de vous n'ait un cœur endurci, mauvais et incrédule, au point de vous détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nous exhorte, qui nous bouscule. Mais Seigneur, tu le fais pour notre bien, parce que tu ne veux pas que nous soyons dans l'illusion. Tu veux nous donner de véritables assurances. Et nous savons que quand tu sauves parfaitement et que tes brebis sont dans tes mains et que nul ne peut les ravir. Mais nous savons aussi qu'il y a un ennemi qui cherche, qui agit par ruse et qui veut présenter le mensonge comme la vérité. Et nos cœurs sont facilement influencés. Et nous te prions que nous recherchions toujours à rester attachés à toi, parce que tu es le meilleur. Tu es celui qui nous donne la vie. Tu es celui qui nous protège. Que nous soyons toujours attachés à toi en obéissant à ta parole. Et précisément en obéissant à cette parole que nous avons lue et entendue ce matin. Te prions que tu sauves encore aujourd'hui ceux qui dans cette salle ne te connaissent pas. Oui, Seigneur, que par ton esprit, tu attires leur cœur à toi, dans une véritable soumission, dans une véritable reconnaissance de ta grandeur, de ta seigneurie et de leurs péchés. Et Seigneur, qu'à tous ceux qui sont tes enfants déjà, que tu donnes de ne pas se reposer simplement sur des choses du passé, mais que la vie, notre vie, puisse être vécue constamment dans le présent, dans un attachement, dans une foi continuelle, dans une obéissance continuelle à ta parole. Je te prie de soumettre nos cœurs à ta parole pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Amen.